France Culture.
Ce lundi, les dirigeants des 5 principaux syndicats et des 3 plus gros mouvements patronaux se sont réunis afin de faire le point sur leurs programmes respectifs, compte tenu bien sûr de la situation internationale, mais aussi, voire surtout en raison d'un contexte bien particulier. Le président de la République, Emmanuel Macron, a en effet appelé le 13 mai à la tenue d'une conférence sur le financement du modèle social entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Et il faut dire qu'une telle discussion semble nécessaire, si ce n'est urgente. Le budget 2026 est actuellement en pleine préparation, puisque ses grandes lignes devraient être présentées mi-juillet. Et plus que jamais, l'impossible équation se pose. 40 millions d'euros d'économies à réaliser, un objectif de réduction du déficit public de 4,6% du produit intérieur brut. Voilà pour les défis auxquels il faut ajouter un signal d'alarme envoyé récemment par la Cour des comptes. La sécurité sociale serait menacée d'une crise de liquidité, selon un rapport publié le 26 mai dernier, de 22,1 milliards d'euros en 2025. Le déficit pourrait atteindre 24,1 milliards en 2028. Alors, que faire ? Pas de hausse d'impôts, a assuré hier Éric Lombard, ministre de l'économie sur France 2. Nous voulons la stabilité fiscale, nous voulons la stabilité des prélèvements obligatoires. Ce que nous avons en France, ce n'est pas un problème de prélèvements obligatoires, de niveau d'impôts, c'est un problème de dépenses publiques, voilà ce qu'il a déclaré. Une piste, cependant, a été envisagée, celle de la mise en place d'une TVA sociale, soit l'idée de taxer la consommation tout en épargnant le travail qui n'est pas récompensé comme il devrait l'être selon François Bayrou. Mais la mesure est loin de faire consensus, estimée injuste ou inefficace pour certains, capable de préserver la bonne santé des entreprises et donc de la croissance française pour d'autres. Elle est pourtant aujourd'hui sur la table et débattue à droite comme à gauche de l'échiquier politique. Alors que vaut véritablement cette mesure ? Quelles leçons tirer des tentatives qui ont existé et de leurs effets ? Préserver le travail au nom de la compétitivité est-il, doit-il être la priorité dans un contexte de restrictions budgétaires à venir. C'est à toutes ces questions que nous allons nous attaquer aujourd'hui au sein de cette émission préparée et programmée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Olivier Arnay. Une table ronde autour de laquelle se trouve Clément Carbonnier, professeur d'économie à l'université Paris 8 et chercheur au laboratoire d'économie dionysien et co-directeur de l'axe politique socio-fiscale du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Bonjour à vous Clément Carbonnier.
Bonjour.
Également avec nous à distance, Sylvain Catherine, vous êtes professeur de finance à Wharton, à l'université de Pennsylvanie. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour à tous.
Et également avec nous à distance, François Langot, vous êtes professeur d'économie à l'université du Mans. Vous êtes également directeur adjoint de l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales à PSEC Préma. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et enfin avec nous en studio, Christophe Rameau, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes également membre des économistes atterrés. Bonjour, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour.
Alors si la TVA sociale a refait surface, c'est parce qu'elle a été évoquée le 13 mai dernier, alors qu'Emmanuel Macron faisait face entre autres à Sophie Binet sur le plateau de France 2. On l'écoute.
Moi je souhaite qu'on lance deux chantiers qui sont complémentaires. Le premier, c'est qu'il y ait une conférence sociale qui s'installe sur le mode de financement de notre modèle social. Notre modèle social, il a 80 ans cette année. C'est un trésor de la République. Simplement, son financement repose beaucoup trop sur le travail. Il faut aller chercher aussi de l'argent en dehors du seul travail. Donc, il y a la consommation, il y a d'autres choses. On doit regarder en conscience que nous sommes une société qui vieillit, qui est face à plein de risques. Notre modèle social se finance trop par le travail. Donc, moi, je souhaite que le gouvernement lance ce travail avec les partenaires sociaux pour qu'on réforme le financement de notre modèle social, et qu'on ait un modèle social qui soit moins financé par le travail et davantage sur d'autres facteurs, en particulier la consommation. Parce que quand on regarde nos voisins, certains taxent davantage la consommation. La consommation, c'est les touristes qui les payent, c'est parfois les entreprises avec les chèques restaurants, c'est les gens les plus aisés. Si on a des taux de TVA pour les biens de première nécessité qui sont bien préservés, je pense que c'est mieux.
On est prêt à revoir la totalité de la question du financement du modèle social français. On est prêt à revoir la question de la place du travail dans le financement du modèle social français. Et je dis, c'est une bonne idée.
Emmanuel Macron le 13 mai, donc, puis François Bayrou le 27 mai dernier. Clément Carbonnier, un point pour commencer. Réformer le financement du modèle social afin qu'il soit moins financé par le travail, mais plutôt par la consommation, comme le proposait donc Emmanuel Macron à l'instant. Cela revient effectivement à proposer les bases d'une TVA sociale. Est-ce que c'est vraiment là le concept, le principe même de cette TVA sociale? Et pourquoi au juste accoler cet adjectif de social à la TVA qui existe déjà? Est-ce que l'actuelle TVA n'a pas déjà vocation quelque part à financer en partie la protection sociale?
Alors la TVA finance en partie la protection sociale. C'est une manière, je dirais un peu marketing, de présenter des choses qu'on fait depuis longtemps, bientôt 35 ans, comme quelque chose d'un peu nouveau. En fait, l'idée, et ça a été dit dans les textes, c'est de modifier le financement de la protection sociale, c'est-à-dire de diminuer les cotisations sociales, et principalement les cotisations sociales employeurs, et de remplacer ce financement par des impôts. Donc de remplacer des cotisations par des impôts, on le fait depuis longtemps, on a créé la CSG pour ça, on l'a fait sans forcément flécher sur le budget général, c'est-à-dire un peu tous les impôts, et puis dans certains cas, on a fléché, notamment lors du passage du CICE d'un crédit d'impôt à un allègement de cotisations, on a ciblé déjà de la TVA dessus. Donc c'est juste le principe général de modifier, de baisser les cotisations sociales et de le remplacer par un impôt, en l'occurrence la TVA, en le ciblant spécifiquement.
C'est ça, cette cible spécifique, c'est ce qui distingue cette TVA sociale d'une augmentation de la TVA plus générale. On vous l'avait dit, Clément Carbonnier, on l'entend, c'est aussi une forme d'outil marketing, mais nous allons voir que ça a un sens vu le passif et le passé de cette TVA sociale, ou en tout cas des tentatives qui ont été menées. François Langot, dans quelle mesure, parce que c'est ça la question qui va se poser très rapidement, dans quelle mesure une telle solution était-elle nécessaire? Est-ce que c'est une source de recettes dont on ne peut plus se passer dans un contexte où l'exécutif, je le disais, est à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies pour respecter ses objectifs? Ou est-ce que c'est, encore une fois, une façon de mettre quelque chose sur la table et avancer potentiellement? Mais dans quelle mesure on est arrivé à une forme d'extrémité où on se dit c'est la TVA sociale puisque rien d'autre ne fonctionne?
Enfin, je ne pense pas qu'il y aura de solution miracle. C'est pas la solution miracle, elle ne va pas tout résoudre. Mais c'est vrai que c'est une des solutions à explorer puisque... En fait, lorsqu'on prend un point de TVA, il est possible de réduire davantage les cotisations payées sur les salaires. Donc, évidemment, ça peut permettre du coup des gains de pouvoir d'achat pour les travailleurs, et ça peut aussi permettre des gains de compétitivité aux biens produits localement en concurrence avec les biens produits à l'international. Donc, ça peut éventuellement redonner des parts de marché aux entreprises et donc à terme de l'emploi. Donc, évidemment, c'est une mesure fiscale qui évidemment, c'est comme l'a dit Clément, c'est déjà opéré, mais c'est une recette certainement qu'il faut réutiliser étant donné le déficit assez abyssal de notre système social. Donc finalement, il faut trouver des solutions, les ajouter les unes aux autres pour arriver à combler le déficit actuel. Et la TVA sociale, effectivement, est un outil assez efficace, me semble-t-il.
Un outil efficace, on va en discuter tout au long de cette émission. Sylvain Catherine, on l'entendait, hein, toute la justification de la mesure réside dans le fait que le modèle social ne parvient plus à être financé tel que le mécanisme existe actuellement. Emmanuel Macron parle de réforme, en l'occurrence une réforme de son financement, avec cette idée cruciale, c'est la consommation et non le travail qui doit contribuer davantage au financement. Pourquoi est-ce que c'est vu justement comme une piste efficace? Quel avantage est attendu?
Je pense que déjà, il faut faire attention parce que quand on dit qu'on taxe la consommation, c'est aussi d'une certaine manière une taxe sur le travail, dans la mesure où les gens travaillent pour pouvoir consommer. Donc ce qui est intéressant sur la TVA sociale, c'est que comme on est dans un pays où il y a à peu près 50% de la production nationale qui est redistribuée, il y a une différence, entre guillemets, entre les salaires et la consommation, parce qu'il y a énormément de consommation qui ne repose pas sur les salaires. Et donc, effectivement, c'est une redistribution du poids du financement des personnes actives vers les personnes inactives. Et donc, d'une certaine manière, comme l'impôt a tendance à détruire sa base, ça a un effet positif, en tout cas en théorie, sur le taux d'activité et donc sur la croissance. Un des problèmes, je pense, qu'on a, c'est pas seulement le niveau des impôts qui serait trop bas, clairement pas. C'est plus un problème de croissance et un problème de gain de productivité. Si on veut obtenir ces gains de productivité, il faut encourager les agents à l'échelle microéconomique à les générer. Et pour cela, il faut qu'ils soient rémunérés pour générer ces gains de productivité.
Ça, c'est la logique. Et nous allons voir que du microéconomique, on pourrait passer aussi au macroéconomique et voir aussi comment cette TVA sociale, cette taxe-là supplémentaire, est aussi envisagée dans des mécanismes plus larges, macroéconomiques, encore une fois, pour autour de cette question de la compétitivité qui est fondamentale. Christophe Rameau, un point peut-être pour commencer aussi sur le constat. La situation est-elle si catastrophique que cela lorsqu'on parle de cette fameuse crise de la liquidité, notamment ce qui concerne la sécurité sociale? Est-ce qu'il faut effectivement mettre sur la table tous les outils dont on dispose, quitte à les accumuler, à les faire compléter entre eux? Est-ce que la situation est vraiment à... On racle les fonds de tiroir pour trouver une solution coûte que coûte?
Alors l'idée que, comment dire, la sécurité sociale est au bord de la catastrophe. Enfin, on entend ça depuis 20 ans, 30 ans, le trou de la sécu. Bon. Faut savoir que les dépenses de protection sociale l'ont passé. 31,5% du PIB. C'est exactement le même montant qu'en 2015. Donc en fait, s'il y a des problèmes de déficit, et d'ailleurs les problèmes de déficit ils sont pas si épais, hein, parce qu'on a 15 milliards sur les régimes de base pour faire vite, mais enfin quand on regarde les comptes nationaux que vient de publier l'INSEE, les organismes de protection sociale entendus au sens large, il y a un excédent de 2 milliards en 2024, vous voyez. Donc il n'y a pas le feu au lac. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème de déficit à gérer, certaines, mais enfin... Voilà, et donc on a, si vous voulez, un discours qui revient régulièrement, qui a le mérite d'une certaine cohérence, hein. C'est on insécurise, et avec l'idée pour les libéraux, et c'est cohérent de leur point de vue, je leur reproche pas d'être cohérent, mais l'idée c'est que voilà, on insécurise, on crée de l'anxiété de façon en fait à réduire les dépenses, à réduire la générosité de notre protection sociale. Et moi, si vous voulez, ce que je voudrais dire en amont peut-être des discussions plus techniques qui sont importantes, il faut savoir toujours rentrer dans le détail, mais c'est que je regrette qu'on n'ait pas des gouvernements qui fassent pas leur job. Le rôle d'un gouvernement, c'est de porter l'intérêt général. Et l'intérêt général, ben, ça consiste notamment à dire, vous savez, Français, vous payez beaucoup de cotisations sociales, d'impôts, mais tout ça, rien ne se perd. Il y a une remarquable étude de l'INSEE, à nouveau, qui a été publiée il y a 2 ans, qui montre que quand on additionne tout ce que paient les Français, toutes les cotisations sociales, tous les prélèvements, donc pas simplement pour la protection sociale, bien sûr, et qu'on met en balance tout ce qu'ils reçoivent en termes de protection sociale, les retraites d'abord, plus de 350 milliards, le RSA que c'est 15 milliards seulement, hein. Bon, les retraites, la santé, les services publics aussi. Eh bien, vous savez quoi? Sur les inégalités en termes de revenus primaires, hors toute redistribution, donc les revenus d'activité et puis les revenus du patrimoine, en France, elles sont énormes, comme dans d'autres pays. On est de 1 à 18. Les 10% les plus riches, ils gagnent 18 fois plus de revenus primaires que les plus pauvres, 13% de la population. Et après, notre merveilleux État social, dont les gouvernements devraient sans arrêt faire l'éloge auprès des citoyens, eh bien on passe de 1 à 18, 1 à 3. On doit d'abord être fier de cela. Alors c'est des sommes considérables, mais 56%, près de 60% des Français, ils gagnent. Et bien entendu, les moins aisés, ils reçoivent plus finalement que ce qu'ils paient. Donc ça fait son job en quelque sorte. Non seulement ça redistribue, mais ça assure des fonctions. La santé, la retraite, parce que c'est les gros postes de protection sociale, ça fait 80% quasiment ces deux-là. Mais enfin, on sait que quand c'est géré par le privé, c'est plus instable, plus inégalitaire et plus coûteux. Donc vous voyez, moi je suis pour, il faut assumer qu'on vit dans des économies mixtes. Le privé a du bon, la concurrence a du bon, mais il y a des domaines où le public, s'il est bien géré bien sûr, ben je trouve qu'il est plus efficace.
Mais Christophe Rameau, cette idée d'une TVA sociale, entre nombreuses autres, mais c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, cette idée de mettre sur la table la TVA sociale, ce n'est pas nécessairement remettre en cause l'intégralité du modèle français, du modèle aussi social qui est le nôtre. On pourrait se dire que c'est juste un outil de plus. Vous y voyez une forme de menace plus générale, de remise en cause plus générale?
Mais c'est une menace immédiate déjà. Vous savez que l'économie, elle va pas très bien. On est au bord de la récession. Et la TVA, on met l'accent dans la TVA sociale sur le fait, oui, qu'on va taxer les importations. Mais enfin, la TVA, elle porte sur tous les produits de consommation. Et donc, on va faire un choc négatif de consommation. Or, l'activité va mal. Il ne nous a pas échappé que les défaillances d'entreprises battent des records. Ça. Est-ce que c'est le moment de faire un choc? On est exactement dans la même situation, parce que c'est pas nouveau, qu'en 95. Alain Juppé, on sortait d'une grande crise en 93. Le déficit public, en 93, 6% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Ça résonne avec aujourd'hui. Qu'est-ce que fait Juppé en 95? Il augmente la TVA de 2 points. Et résultat des courses, bah c'est une raison pour laquelle il a perdu les élections de 97. Hein, les élections législatives anticipées par Jacques Chirac. Et qu'est-ce qu'a fait Jospin? Il a baissé la TVA d'un point. Et vous savez ce qui s'est passé les années suivantes? 97-2001, 2 millions d'emplois créés, avec un taux de croissance en France qui était plus élevé, y compris que chez nos partenaires européens. Bon.
Le constat s'impose au vu de ce passé relativement récent. Clément Carbonnier, sur cette question, vous souhaitiez réagir. Et puis moi, j'aurais une autre question un peu annexe. Mais vous l'avez dit vous-même, l'idée de la TVA sociale, c'est en fait de compenser. C'est une recette supplémentaire pour compenser une baisse ailleurs. On a un peu l'impression d'un jeu à somme nulle. Finalement, ce n'est pas une ressource en soi supplémentaire, si on doit résumer les choses.
Bah, là, il y a beaucoup de questions là-dessus. Et il y a du flou. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on augmente la TVA pour combler le déficit? Et donc là, dans ce cas-là, ça remplace en fait des manques de financement précédents. Et donc, il faut regarder ce qui a manqué comme financement précédemment. Soit on baisse la TVA, soit on augmente la TVA pour baisser maintenant les cotisations. Mais on peut pas avoir les deux en même temps. Ou alors on aura deux demi. Mais donc là, il y a quand même quelque chose qui est clair. On peut pas avoir en même temps une baisse des cotisations et un remboursement du déficit. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est quand même important sur la question est-ce que ce genre de mécanisme et de changement menace globalement la protection sociale, à nouveau, on a un peu de l'histoire dedans. Parce que derrière, ce que ça change, c'est que ça change la gouvernance. On avait une protection sociale qui a été construite comme paritaire, c'est-à-dire en grande partie gérée par les partenaires sociaux, les représentants des employeurs et des employés. Et ce qu'on a depuis le moment où on a commencé à fiscaliser le financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire à remplacer les cotisations par des impôts, ben, l'État a pris de plus en plus de place dans les décisions. Et en l'occurrence, il a pris cette place souvent pour baisser la protection sociale. Je pense que le meilleur exemple, c'est le dernier en date, c'est l'assurance chômage, qui était un des derniers qui était financé de manière très paritaire. Et ce qui s'est passé en 2017, c'est qu'il y a eu un remplacement de cotisations par de la CSG. À partir de ce moment-là, on perd aussi le lien, d'une certaine manière, entre un droit, c'est-à-dire je paye ma cotisation, j'ai donc, droit au chômage, et donc à partir de ça, on est dans un système d'assurance, et à partir de ce moment-là, l'État s'est beaucoup plus immiscé dans les négociations. En gros, il a donné des feuilles de route qui empêchaient les négociations, et donc il a décidé, et ce qu'il a décidé, c'est des baisses drastiques de la protection du chômage, avec comme conséquence des emplois plus précaires, des contrats plus courts, et donc une détériorisation de la qualité de l'emploi et donc de la productivité qui est liée à ça aussi. Donc en fait, on a quand même un schéma global, et donc je pense que on pourrait dire que c'est un procès d'intention, mais on doit se méfier de ces fiscalisations de la protection sociale.
Parce qu'ils impliquent un système de gouvernance nouveau. En fait, c'est toute la justification de « puisque je finance, j'ai un droit de regard, je gère la situation et je décide où sont allouées les ressources ». En fait, c'est ça que vous nous dites, Claire.
En grande partie, oui.
En grande partie, oui. Je voudrais vous citer justement sur ce lien entre cet outil qui peut sembler être un petit levier, finalement, qu'est la TVA sociale, et puis la conception du modèle social français qui en résulte. C'est une tribune publiée par l'Économiste Hippolyte Dalby, paru dans le journal Les Échos, qui résume ainsi les choses. À recette totale inchangée, ce sont les modalités de financement des dépenses sociales qui seraient affectées. Ce faisant, on s'éloignerait encore un peu plus d'un modèle dit bismarckien. Cela chagrine certaines voix particulièrement sonores, mais étant donné l'état des finances publiques, il n'est pas certain que la nostalgie ait sa place dans le débat. François Langot, est-ce vraiment de cela dont il s'agit, d'une simple notion de nostalgie ou d'attachement à un modèle? Est-ce que les choses sont un peu plus graves que cela?
Non, je pense que c'est un peu plus grave. Je pense qu'il faut quand même un petit peu expliquer de quoi il s'agit, parce que là, il ne s'agit pas de mettre de la TVA comme ça s'est fait ou pas avant. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de remplacer, par exemple, 5 points de TVA, disons, par 5 points de cotisation à la place de 5 points de cotisation sociale. Comme les cotisations sociales sont assises sur une base plus petite, baisser de 5 points les cotisations sociales, évidemment, ça va rapporter moins que d'augmenter de 5 points la TVA. Donc ça, pour l'État, c'est évidemment un gain financier. Donc ça, on voit tout de suite que évidemment, l'État a intérêt à faire ça, on élargit l'assiette, et comme on est en période de déficit, a priori, ça peut être un argument pour combler le déficit. Et contrairement à ce que disait M. Rameau, je ne pense pas que ce soit simplement les libéraux qui regardent l'évolution du déficit de la France. Mais enfin, depuis les années 80, la dette n'a cessé d'augmenter. Il faut peut-être à un moment donné s'imaginer peut-être une solution pour au moins la voir un jour se stabiliser. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que ce mode de financement, en baissant le coût du travail en France, va rendre plus compétitifs nos produits au sein des différents marchés, donc permettre à nos entreprises de gagner des parts de marché, ce qui est donc un effet compétitif favorable. Donc même sans parler de gains fiscaux pour l'État, etc., même cette mesure-là, en donnant des parts de marché supplémentaires aux entreprises, donnera des emplois supplémentaires à la population et donc créera du pouvoir d'achat, même si l'accroissement de la TVA compense exactement la baisse des cotisations salariales. Donc, de toute façon, pour le consommateur, producteur, travailleur, c'est un gain de pouvoir d'achat à terme. Donc là, c'est pas une vue de l'esprit, c'est simplement une vue comptable. Alors après, je suis d'accord qu'il y a peut-être un problème sur l'histoire de notre système social qui effectivement était habitué à gérer des cotisations avec des caisses particulières et redistribuer après de manière bismarckienne ces différents revenus. Évidemment, ça heurte un petit peu ce problème. Mais vous voyez bien quand même que depuis plus de 30 ans, ces systèmes-là ne sont plus à l'équilibre. De toute façon, l'État reverse systématiquement des subventions à des caisses qui sont déséquilibrées. Donc, le financement de la sécurité sociale par une cotisation équilibrant l'ensemble du système n'est plus du tout d'actualité depuis plus de 20 ans. Donc, je ne pense pas non plus que ce soit une révolution que d'introduire un petit peu de TVA sociale dans ce financement.
Et Clément Carbonnier, vous souhaitiez réagir?
Oui, c'est sur le principe théorique de on va baisser les cotisations sociales, donc on va améliorer notre commerce international et on va améliorer l'emploi. Et théoriquement, effectivement, on a ce mécanisme-là. Même maintenant, théoriquement, on a aussi potentiellement d'autres mécanismes qui peuvent entrer en jeu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu empiriquement. Et comme je vous disais que ça fait 30 ans qu'on fait ce genre de mesures, on a de quoi le tester. Donc, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, on est quand même à 40 points. D'allègement de cotisation au niveau du SMIC et on monte jusqu'à 7,8 points, jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Donc on a quand même un grand panel pour faire ces évaluations-là. Sur la partie sur les bas salaires, en fait, les entreprises exposées au commerce international n'emploient pas de bas salaires. En fait, c'est des entreprises qui sont plus productives, qui emploient des gens mieux formés. Et même quand on regarde leurs intrants, c'est-à-dire les non pas directement les gens qu'elles emploient, mais les produits qu'elles achètent, voire qui sont employés, même de ce côté-là, ce qu'on appelle le côté indirect, elles sont très peu exposées aux bas salaires. Donc en fait, baisser les cotisations sociales sur les bas salaires, ça ne touche pas les exportatrices. Sur les hauts salaires, on a un exemple qui a été récent, qui a été très fort. On a baissé de 6 points les cotisations dans le cadre du CICE. On a pu faire une évaluation très claire, très nette des effets sur le commerce international. Il n'y en a pas eu. Donc derrière, en fait, oui, théoriquement, on pourrait avoir ces gains. En fait, on les a pas. Ça fait 30 ans qu'on le fait, on ne voit pas ces gains-là. Donc peut-être qu'il faut arrêter de chercher dans ce sens-là, ça ne marche pas et il faut chercher d'autres solutions dans d'autres directions.
Sylvain Catherine, effectivement, le bilan des 30 dernières années semble relativement implacable. Quel regard porter effectivement sur ces mesures qui ont été mises en place depuis, milieu des années 90, comme on le disait à l'instant. Et est-ce qu'effectivement, ça remet en cause aussi cette idée qu'une baisse des cotisations génère pas nécessairement de l'emploi et donc une forme de compétitivité pour la France?
Oui, alors je pense que pour des raisons historiques, on a été totalement omnibulé sur la question de l'emploi et ça fait énormément de sens étant donné le niveau de chômage qu'on avait il y a de ça 10-15 ans qui est un peu plus bas aujourd'hui. Mais il y a d'autres considérations en particulier. Je pense que les taux de cotisation sont très très élevés sur les hauts salaires et ça c'est un problème à la fois dans notre compétitivité vis-à-vis des autres pays et c'est aussi entre guillemets une nouveauté historique. Si on revient 30-40 ans en arrière, les taux de cotisation au-dessus du plafond de la sécurité sociale étaient plus faibles. Si on veut à la fois garder la main-d'œuvre qualifiée française en France et potentiellement attirer une main-d'œuvre étrangère en France pour avoir une industrie compétitive, ces taux de cotisation sont très importants. D'autant que, et pour revenir sur la question de la performance du système social, qui à mon avis, et là je suis d'accord avec Christophe Rameau, est aussi importante que la question des équilibres comptables, mais là où je suis en désaccord, c'est sur le fait qu'elle soit performante. On demande aux jeunes actifs de cotiser 28% de leur salaire brut à un système dont le rendement effectif est de l'ordre de zéro. D'après le Conseil d'orientation des retraites, c'est environ 0,3% de rendement par an pour les gens qui sont nés après les années 80. Et ça, c'est en supposant qu'il n'y ait pas de nouvelles réformes des retraites. Mais évidemment, il y en aura de nouvelles. Donc, c'est très bizarre, je pense. Donc, ça pose des questions en termes de cycle de vie, du moment où on demande, au moment du cycle de vie dans lequel on demande aux gens de faire des efforts très élevés. Si vous êtes autour de 30 ans, normalement, ce que vous devriez faire, c'est devenir propriétaire, commencer une famille. Mais on vous demande, en gros, de donner la moitié de votre salaire pour, entre guillemets, préparer votre retraite, mais ce n'est pas vraiment la logique du système par répartition. Donc vous payez 28% pour la retraite, vous payez 14% pour la santé. Toutes ces cotisations, elles ont un rendement très faible. Vous pourriez avoir un rendement beaucoup plus élevé, par exemple en remboursant votre crédit immobilier, en arrêtant d'être locataire, en achetant votre première maison. Tout ça, ça a des implications aussi sur le bien-être des gens et qui pose aussi, évidemment, peut-être qu'on en parlera, des questions d'équité entre les générations, parce que, évidemment, la raison pour laquelle les taux de cotisation sont si élevés, hein, c'est parce que le rendement du système, en fait, était assez généreux pour les gens qui sont actuellement à la retraite ou qui actuellement ont des dépenses de santé élevées, parce qu'ils sont un peu plus âgés.
Christophe Rameau, c'est effectivement une question très importante qui se pose, celle de l'efficacité, et notamment à l'aune, on l'entendait avec Sylvain Catherine, à l'aune de cette fracture intergénérationnelle. Est-ce qu'effectivement, si on regarde la question de l'efficacité à travers ce prisme-là, le problème se pose quand même davantage?
Écoutez, on est dans les sociétés où, pour des raisons démographiques, en France comme ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, il y aura plus de vieux par rapport aux jeunes. Il y a des innovations médicales qui sont coûteuses, donc a priori, dans tous les pays du monde, les dépenses de retraite et les dépenses de santé doivent augmenter. La question qui se pose, c'est comment on le prend en charge. Sylvain Catherine, qui est un spécialiste de la finance, je le conçois de son point de vue. Il préférerait, c'est dit à beaucoup vers là, mais enfin, il préférerait un système financiarisé. Les fonds de pension pour la retraite et puis des assurances privées pour la santé. Bon, mais il se trouve que Sylvain Catherine vit aux États-Unis et donc je vais pas lui faire offense de lui dire qu'il connaît, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de visu, il peut juger sur place, si je puis dire, de l'efficacité comparée. Vous savez qu'en France, les dépenses de protection sociale, c'est 31,5%. Mais aux États-Unis, c'est quasiment le même montant si on prend en compte les dépenses privées. Et aux États-Unis, par exemple, pour la retraite, parce qu'on parle de rendement financier, de la retraite par capitalisation, on nous sort des chiffres, retraite par capitalisation aux États-Unis. Attention, aux États-Unis, heureusement pour les Américains, ils ont une retraite par répartition publique. Hein. C'est ce qu'ils appellent la sociale. Il y a de la social security, ça existe depuis Roosevelt. Heureusement pour eux. La majorité des Américains vivent majoritairement de la retraite publique. C'est le principal budget civil américain. Mais enfin, les complémentaires, comme dans plein de pays au monde, sont gérés par les fonds de pension et c'est des sommes considérables. Mais vous savez que ces fonds de pension aux États-Unis, on est passé ces dernières années de retraite privé à prestation définie, où vous avez une garantie de rendement, comme c'était pas très sûr les garanties de rendement, la crise de 2008, etc., finalement, on est passé à un système à cotisation définie. Cotisation définie, vous savez ce que ça signifie? Vous êtes sûr, vous savez ce que vous payez, mais alors ce que vous toucherez, ça, il n'y a aucune garantie. Donc, l'idée que la retraite par capitalisation, ça apporte plus de garanties, non. Par contre, là où il y a une vraie question, c'est qu'il faut se donner les moyens. Le problème qu'on a, si vous voulez, moi, de mon point de vue, c'est un problème de recettes. Je vous ai dit, la part des prestations sociales en pourcentage du PIB, elle n'a pas augmenté depuis 2015. Par contre, qu'est-ce qui a baissé là depuis 2017? C'est les prélèvements obligatoires, d'accord? Et donc c'est pas les prestations sociales, c'est pas notre modèle social qui est responsable du creusement des déficits. C'est les cadeaux fiscaux qui ont été principalement faits au bénéfice des plus aisés. Et donc là, on a un problème de justice fiscale. Alors peut-être, pour compléter, peut-être un élément de nuance, pour remonter un peu en généralité avec ce que disait tout à l'heure Clément Carbonnier, sur cotisation, impôt. Moi, je suis pour l'un et l'autre. Je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'on est dans un modèle où, historiquement, c'est plutôt bismarckien, donc un modèle d'assurance sociale, il faut cotiser pour avoir le droit. Je pense que ce modèle, il a ses vertus, la cotisation a beaucoup de vertus, notamment parce que ça exhibe que la richesse est créée par le travail, et puis il y a l'idée qu'il y a des prestations où il faut cotiser pour avoir droit, retraite, chômage. Et donc je suis pour que pour retraite, chômage, on soit inscrit dans la cotisation. Par contre, pour les prestations qu'on a rendues universelles, qui n'étaient pas, faut savoir que, contrairement à ce qu'on dit souvent, à ce qu'on entend parfois du moins, les ordonnances de 45, c'est pas le programme du Conseil national de la résistance de 44. Le programme du Conseil national de la résistance de 44, c'est donner une sécurité sociale pour tous les citoyens, avec une participation de l'État et des partenaires sociaux, bien entendu, à la gestion. Parce que c'est la citoyenneté qui est en jeu. Les ordonnances, elles créent plutôt un régime d'assurance sociale restreint, parce que les médecins libéraux veulent pas rentrer dedans, Mais donc, pour le coup, je pense que l'idée, si vous voulez, le modèle des cotisations pour la retraite et le chômage, et puis des impôts qui peuvent aussi être bienvenus en complément pour la santé, bah, typiquement la CSG, ça ne me choque pas. La question, dans tous les cas, qui se pose, et là on sera d'accord avec Clément Carbonnier, c'est qu'il faut se donner les moyens pour faire vivre notre joli système de protection sociale.
Se donner les moyens, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Sylvain Catherine, je vous donne évidemment la parole. Je précise tout de même que notre émission est consacrée à la façon dont on peut repenser justement le financement de notre modèle social et n'est pas entièrement consacrée à la question des retraites, même si tout est évidemment lié, mais vous avez souhaité réagir, donc je vous laisse la parole.
Oui, je voulais revenir sur la performance, parce que ce n'est pas juste une question de comparaison de la répartition à la capitalisation, même si, à mon avis, c'est important. Dans le système américain, vous avez à peu près la même pension annuelle distribuée aux retraités qu'en France, juste pour la répartition, donc sans compter la capitalisation, alors que le taux de cotisation sur les salaires est de 10,6%. Donc vous voyez, il y a un écart de poids sur les salaires alors qu'on paye la même pension qui est monstrueux par rapport à 28%. Pourquoi ? C'est en grande partie parce que les salaires sont nettement plus élevés, parce que c'est un pays qui a des gains de productivité plus élevés. Il y a aussi une question d'heures de travail et d'âge de départ à la retraite. Mais à partir du moment où on est à ce système qui pèse si lourd sur les salaires, et donc là on revient au mode de financement, on empêche les salaires de progresser et d'une certaine manière on tue la base fiscale sur laquelle ce système est supposé reposer. Et on en finit avec une performance qui est très médiocre. C'est pas normal qu'on donne 28% de son salaire pour récupérer 70% de son net pendant 20 ans, alors qu'on a donné 28% pendant 40 ans. Il y a vraiment un problème de performance ici qu'il faut pas négliger.
Un problème de performance qui est au cœur aussi des mécanismes qui sont mis en place, ou en tout cas des tentatives hein, qui existent pour trouver d'autres solutions pour financer ce fameux modèle social. Alors le risque, on l'a bien compris, est évalué de façon très différente en fonction des points de vue. Je vous propose à ce sujet d'écouter le point de vue de Patrick Martin, président du MEDEF, et Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui résume à eux deux l'intégrité du débat qu'on vient d'avoir. C'était le 27 mai dernier.
La TVA sociale, elle existe déjà. Il y a 54 milliards d'euros de protection sociale qui sont financés par la TVA.
Patrick Martin, président du MEDEF, le 27 mai.
J'ajoute que la CSG a été instaurée d'ailleurs par un gouvernement de gauche. Ça a été également un transfert vers la fiscalité du coût de la protection sociale. Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, nos entreprises sont pénalisées parce qu'elles supportent trop de charges sociales. Qui seraient les bénéficiaires d'une TVA dite sociale ? Les entreprises en termes de compétitivité, écoutez, si on regarde notre balance commerciale, d'évidence, on a un problème de compétitivité, donc d'emploi derrière. Ce sera ensuite les salariés, puisque les entreprises payant moins de charges, pour partie, ça favoriserait les salaires nets. Et enfin, j'insiste sur un point qui n'est pas suffisamment souligné, ça bénéficierait à l'État lui-même. Pourquoi ? Parce que, par hypothèse, les résultats des entreprises s'amélioreront, elles paieraient plus d'impôts.
Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de rentiers.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, le 27 mai.
Depuis 7 ans, les milliardaires, les rentiers se sont considérablement enrichis sur notre dos, puisqu'on a cessé de faire baisser nos salaires qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020 et d'augmenter les impôts sur celles et ceux qui bossent et qui ont déjà beaucoup de difficultés à boucler leur fin de mois. La TVA sociale, c'est une ligne rouge totale pour la CGT, comme pour l'ensemble des syndicats d'ailleurs. Aujourd'hui, le problème en France, c'est que le travail ne paye plus. Et que fait le gouvernement ? Il veut encore et toujours nous taxer, nous, les travailleurs et les travailleuses, notamment avec cette TVA antisociale qui est totalement injuste.
On voit bien là les lignes de fracture hein, qui se coalisent autour de cette question de la TVA sociale. François Legault, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que toute l'efficacité de la TVA sociale repose sur le fait qu'elle concerne tout le monde, y compris des individus qui ne sont pas en emploi, ce qui donc touche de fait les retraités également. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut se dire que c'est effectivement une manne parce que ceux qui échappent à tout le système de cotisation vont être concernés ?
Bien sûr, ça c'est vraiment un levier très important, en sachant qu'une partie du déficit en fait vient du fait aussi qu'il y a trop de prestations versées par rapport aux recettes. Donc évidemment, il faut élargir les recettes. Et la TVA fait payer les retraités. Donc évidemment, ça c'est une manière de réduire les taux de cotisation versés pour le système de retraite. Donc évidemment, cet élargissement de la base est très important. Ça permet aussi, je vous rappelle, pour revenir sur les fameux riches et les très riches de la société, taxer la taxer la consommation permet de taxer finalement de manière indirecte le fruit de l'épargne, puisque cette épargne qui est placée pour être ensuite consommée, parce qu'évidemment personne ne place son épargne pour mourir avec son épargne, donc c'est a priori pour être consommée. Donc c'est une manière aussi de répercuter de manière indirecte, de manière fiscale, et de faire payer sur les revenus financiers une taxe. Donc évidemment, taxer la consommation, qui finalement est le dernier acte d'un individu sur un marché, eh bien, c'est une manière de taxer l'ensemble des revenus de l'ensemble des participants à la société. Donc, c'est la manière la plus générale de faire participer l'ensemble de la société au financement de la sécurité sociale.
La manière la plus générale, mais on pourrait se dire aussi la manière la plus injuste, si on y réfléchit bien, Clément Carbonnier, on va poindre le problème.
François, je peux encore la parole rapidement.
Allez-y.
Deux minutes. Non, c'est pas. On remplace un impôt proportionnel, la cotisation salariale, par un impôt proportionnel, la TVA. Donc, tout est proportionnel. Là, il ne s'agit pas de rentrer dans le système de redistribution par l'impôt. Il s'agit simplement de remplacer des taxes proportionnelles par des taxes proportionnelles. C'est tout.
Clément Carbonnier, sur cette proportionnalité.
Alors, il y a la proportionnalité, il y a qu'est-ce qu'on remplace aussi. Je pense qu'il faut regarder, justement, c'est pour ça que je disais au début, il y a quelque chose qui est marketing, qui est dire, voilà, on va dans la loi écrire, c'est ciblé, c'est pour remplacer telle chose. Maintenant, il y a la réalité, la manière dont c'est poussé, c'est on dit, il y a des déficits, les déficits sont de la sécurité sociale, les déficits de la sécurité sociale, ils dépendent aussi de jeux d'une certaine manière comptable, c'est-à-dire qu'il y a un déficit aussi qui est global, et donc il faut regarder la trajectoire aussi, d'une certaine manière. Quand on regarde la trajectoire, on voit quoi ? On voit le rapport de la Cour des comptes de l'année dernière disait clairement que, en gros, le déficit de la sécurité sociale, il était à peu près égal à au manque de recettes qui ne sont pas compensées liées aux compléments de rémunération. Donc, on a des compléments de rémunération qui vont plutôt pour les salariés les plus aisés et qui sont totalement exemptés et qui correspondent, nous dit la Cour des comptes, au déficit de la sécurité sociale. Pour le déficit plus global de l'État, ce que nous a dit l'INSEE, c'est que c'est très lié à des baisses de recettes, qui étaient liées à une moindre fiscalisation des revenus du patrimoine, à une moindre fiscalisation des stocks de patrimoine et à une moindre fiscalisation des entreprises. Donc, on a ça, et donc après, on nous dit il y a un déficit. Du coup, on va le combler, on va augmenter la TVA. On peut dire, la TVA, tout le monde la paye, c'est juste, mais il faut regarder la dynamique. Et en fait, cette TVA, elle remplace tous ces impôts-là qu'on a baissés. Et donc, derrière, effectivement, si on part de zéro et qu'on dit, bon, on va améliorer parce que on a des nouvelles technologies en santé qui nous permettent de mieux soigner tout le monde, on va mieux soigner tout le monde, donc on va dépenser plus en santé et on va le financer par un impôt que tout le monde va payer, ça se comprend. Et c'est pas la même chose que si on dit on va réduire certains impôts d'année en année et quand on arrivera à un déficit énorme parce qu'on a réduit ces impôts, on va augmenter la TVA. Donc je pense qu'il faut aussi regarder les questions de fiscalité dans cette globalité. Et juste un dernier point pour revenir sur la question de la proportionnalité des cotisations et de la TVA, mais la question c'est qui le paye. C'est-à-dire que les cotisations, c'est on parle, alors sauf si ça a changé, moi de ce que j'ai compris, c'était les cotisations employeurs qui étaient visées et pas les cotisations salariées, et on le remplace par de la TVA qui en grande partie est payée par les consommateurs. Donc là, il y a quand même une question, c'est pas juste de la proportionnalité, c'est qui le paye.
Et il faut effectivement bien distinguer ces deux branches-là, et c'est ce que nous allons faire. Christophe Rameau, avant cela, vous souhaitiez réagir.
Oui, d'abord la TVA, elle a beau être proportionnelle, même avec des taux réduits, mais enfin, le béaba quand même, c'est de comprendre que les plus pauvres, ils payent plus de TVA en pourcentage de leurs revenus, tout simplement parce qu'ils consomment tout leur revenu, et que les plus riches, les estimations, c'est de l'ordre de 12%, si je ne m'abuse.
12,5%.
Pour les 10% les plus pauvres, ils payent 10% de leurs revenus pour la TVA, 12% de leur revenu pour leur TVA, alors pour les plus riches, on est à 5%.
Oui, 4,7%.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc c'est bien anti-redistributif. Faut pas mentir. Alors, comment dire? On est confronté quand même à un petit paradoxe, là. 95, Juppé augmente la TVA de 2 points, mais parce que c'était pour compenser des exonérations de cotisations sociales. On était dans le genre de truc. Mais le petit problème, maintenant, qu'ont les libéraux, c'est que, au niveau du SMIC, il vous a pas échappé qu'il y a plus de cotisations sociales employeurs. Et donc, si on remplace les cotisations sociales employeurs, qui n'existent plus au niveau du SMIC parce qu'il y a des exonérations, par de la TVA, mais il y a un petit souci ici. Mais dans tous les cas, moi, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la bascule cotisations sociales, employeurs, sur la TVA, c'est un choc anti-redistributif. Il faut pas mentir, il faut l'assumer. On peut l'assumer au nom du fait que les profits, c'est merveilleux, ça relance l'investissement, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce discours est entendable, hein, c'est un discours libéral entendable, mais il faut pas commencer à tourner autour du pot sur le thème, mais non, finalement, c'est vraiment quelque chose qui est anti-redistributif. Et un dernier point sur le rapport de la Cour des comptes, quand même, on a retenu le fait que... Mais enfin, il y a quand même des choses intéressantes hein, que Clément Carboni a évoquées. La Cour des comptes nous dit au passage, oui, il y a les exonérations non compensées, plus de 5 milliards, d'accord. De façon générale, il y a tout le mécanisme de revenus extrasalariaux, si je puis dire, intéressement, participation, la prime pour le pouvoir d'achat, tout ça, c'est exonéré de cotisations, donc il ne s'agit même pas de compenser, là, il n'y a pas de... Et c'est de l'ordre de 12 milliards, si je ne m'abuse. On est exactement sur les mêmes ordres de grandeur que le déficit qu'on nous affiche.
Pour rentrer dans le détail de ce que vous avez commencé à aborder, Christophe Rameau, effectivement, ce fameux rapport de la Cour des comptes paru le 26 mai dernier a produit des estimations, effectivement, de ce volume hein, des aides qui a presque quadruplé, selon la Cour des comptes, en une décennie, passant de 20,9 milliards d'euros en 2014 à 77,3 milliards en 2024. C'est un dispositif qui est donc coûteux dans l'absolu. Il représente aussi un manque à gagner, vous le disiez, pour la sécurité sociale, de l'ordre de 5,5 milliards d'euros en 2024, soit 7% du total des allègements des charges. François Longo, comment expliquer cette évaporation, finalement, des ressources? On a dit l'État est censé compenser. Qu'est-ce qui s'est passé là?
L'État verse des exonérations de charges, je crois, pour quand même maintenir un coût du travail en France qui soit compétitif par rapport aux autres coûts du travail de nos partenaires européens. Donc, il faut quand même déjà avoir ça en tête. C'est que aujourd'hui, on arrive à avoir un coût moyen horaire en France qui est approximativement le même, aux alentours de 45 euros, qu'en Allemagne. Donc, ça, c'est une performance qui nous permet de vendre des produits d'à peu près une même qualité que le produit allemand à des prix équivalents. Et donc, du coup, on a des parts de marché et donc on a des emplois. Évidemment, si l'État n'allège pas les charges, donc si l'État laisse courir le coût du travail à hauteur des cotisations salariales inscrites dans la loi sans exonération, là, évidemment, notre coût du travail va passer à 49, 50, au-delà de 50 euros. Et là, évidemment, nos entreprises perdront des parts de marché et des emplois seront détruits. C'est un mécanisme vraiment tout à fait comptable. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 expériences pour s'en rendre compte. Je ne vois vraiment pas... Et je voudrais aussi signaler une chose, c'est que vous nous y dites, il y a trop d'aides, elles ont toujours augmenté. Mais je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, les recettes de l'État, c'est 51% du PIB. Et ça le sera... dans les prévisions, il s'engage à le garder pour les 5 années à venir. Je ne crois pas avoir vu les recettes de l'État diminuer du fait d'énormes exonérations de charges salariales depuis qu'ils sont à 51%. On n'avait quand même pas des recettes de l'État qui étaient, il y a 20 ans, à 70% du PIB. Donc, les recettes n'ont pas diminué suite à un accroissement extraordinaire des aides à amener aux entreprises. Tout ça, ça me paraît être un discours un petit peu... facile, mais en dehors de toute réalité. Et je vous rappelle quand même qu'avec 51% du PIB en recettes fiscales accordées à l'État français, nous sommes champions d'Europe, voire même champions du monde. Donc je ne vois pas tellement comment il serait possible qu'on soit parti tellement plus haut pour qu'avec les exonérations de charges, on soit baissé à ce niveau très très faible de 51%. Le niveau est très très élevé et je vous promets, on n'était pas à 70% il y a 20 ans. Donc il n'y a pas eu une explosion des charges, des subventions au patronat. Ça, c'est vraiment un discours, il me semble, un peu trop facile.
En l'occurrence, ce n'est pas moi qui tenais ces propos, ce sont les chiffres hein, de la Cour des comptes. Je tiens à le préciser. Sylvain Catherine, vous souhaitez réagir?
Je pense que je vais faire pas mal écho à ce qui vient d'être dit. On a en gros la moitié du PIB qui est prélevé par l'État. On est sur le podium mondial. Et malgré ça, on a un des déficits les plus élevés, si ce n'est le plus élevé, je n'ai pas regardé pour tous les pays, de l'Union européenne. Donc clairement, c'est un problème de dépenses. Si on regarde le détail, donc on a en gros 5-6 points de déficit sur le PIB. On a, si on compare les dépenses de santé à la moyenne de l'Union européenne, on a 1,6 points de PIB de plus. Si on compare les dépenses de retraite, on a 2,6 points de PIB de plus. Et pour le reste de la protection sociale, on a 1,5. Donc si vous faites la somme de tout ça, vous trouvez plus ou moins le déficit primaire. Vous trouvez 5 points sur la protection sociale de dépenses supplémentaires par rapport au reste de l'Union européenne. Ce qui, par ailleurs, est paradoxal parce que sur les fondamentaux, on est dans une meilleure situation. On a une natalité qui est toujours plus élevée et qui a été autour de 2 points, de 2 enfants par femme pendant longtemps. Donc on a une population plus jeune, donc en meilleure santé, a priori moins de retraités, mais en pratique, c'est pas vraiment le cas vu que l'âge de départ à la retraite est plus tôt. Et malgré ça, on a des dépenses de santé en pourcentage du PIB et des dépenses de retraite en pourcentage du PIB qui sont, si on additionne les deux, 4 points plus élevés que le reste de l'Union européenne. Donc je pense que c'est vraiment sur les dépenses qu'on a une déviation par rapport à la norme.
C'est sur les dépenses et qu'il y a une dérive, d'après ce que vous nous dites, Sylvain Catherine. Alors aujourd'hui, on essaie de se concentrer aussi sur la façon dont on peut augmenter les recettes, et notamment grâce à cet outil de la TVA sociale. On va y revenir. Clément Carbonnier, vous souhaitiez avant cela réagir.
Oui, je voulais réagir sur 2 points. Le premier, c'est sur cette question de coût du travail. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est très important, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que on a ces politiques, ces fameuses politiques, c'est 77 milliards de... C'est cette focalisation de la politique de l'emploi depuis 40 ans sur le coût du travail. Or, en fait, quand on regarde, le coût du travail n'a pas l'effet attendu sur l'emploi. Ça n'a pas été le cas en France, on a un certain nombre d'expériences. Donc François Langlois dit, c'est pas la peine de faire... Ben si, c'est quand même utile de regarder les expériences. En France, les baisses de coût du travail n'ont pas généré d'emploi. Quand on regarde dans d'autres pays où on peut avoir des effets inverses avec des hausses très fortes du SMIC, des fois 20% de hausse du SMIC d'un coup, et jusqu'à des niveaux tout à fait comparables, voire supérieurs à la France, donc c'est pas des... On n'a pas de baisse de l'emploi au moment de ces hausses, donc en fait, il faut un peu désacraliser cette idée du coût du travail qui, du coup, obnubile la politique française et nous mène dans un mauvais côté. De l'autre côté, sur cette question des dépenses, et effectivement, quand on regarde les dépenses, c'est des dépenses sociales, il faut bien se dire que effectivement, il y a des prélèvements obligatoires, qui ne sont pas fiscaux, justement, qui sont d'autres formes de prélèvements obligatoires, mais on a des prélèvements obligatoires pour financer des dépenses socialisées. Dans les autres pays, quand ils ne financent pas ces dépenses socialisées, c'est pas que les gens le dépensent pas, c'est que les gens ils le dépensent en privé. Et donc derrière, il y a la question, c'est est-ce qu'on veut un système de santé plus public ou plus privé. Et d'ailleurs, quand on fait les comparaisons entre la France et les pays qui effectivement dépensent moins en santé, souvent c'est parce que contrairement à la France qui a toute une partie privatisée, y compris sur les complémentaires santé, ces pays-là ne l'ont pas. Donc en fait, l'idée c'est qu'il faut pas aller vers plus de privé pour être plus efficace sur les questions et notamment de sécurité sociale. C'est pas, oui, on aura peut-être affiché des taux de prélèvement obligatoire plus élevés, mais en fait les ménages dépenseront moins parce qu'ils auront finalement une protection sociale dont ils ont besoin. Si le public la donne pas, ils l'achèteront dans le privé, et dans le privé, elle sera moins efficace et plus inégalitaire.
Christophe Ramon, on en revient là à ce que vous nous disiez en début d'émission sur cette idée que finalement, à travers cet outil, ce mécanisme de la TVA sociale, c'est toute une vision du modèle aussi de social français qui se dégage. Est-ce qu'effectivement, il y a cette crainte à avoir que finalement, ce soit des incitations, des leviers aussi incitatifs à se tourner davantage vers un système davantage privé?
Et puis, alors d'abord, faut balayer des faux arguments quand même. L'idée que les déficits publics ou la dette publique, c'est lié à la dépense publique. Maintenant, le Japon, c'est un des pays au monde là. Dépenses publiques le plus faible. Les États-Unis aujourd'hui sont à 6% de déficit public. Bon, bref, voilà. Donc, comment dire, le vrai problème, le vrai enjeu, effectivement, hein, je rebondis sur ce que dit Clément Carbonnier, c'est l'enjeu, c'est comment on prend en charge certains besoins. C'est vraiment ça, hein, la question. Et moi, vous savez, je suis un keynésien, enfin, je suis pour balayer devant ma porte, je suis pour faire attention aux dépenses. Et il y a une dépense, effectivement, en matière de santé qu'on pourrait réduire, c'est la dépense des complémentaires. On a maintenant plein de travaux qui s'accumulent des complémentaires privés. Alors, soit mutuelle, soit assurance privée et capitaliste. Voilà, on a plein de travaux qui montrent que si on faisait du 100% santé, hein, d'autant que maintenant quasiment tous les Français, enfin la grande majorité des Français ont une mutuelle, eh bien on est commisé de l'ordre de 5 milliards. D'accord ? Bon, c'est quand même pas rien, 5 milliards. Bon, sur les retraites, une petite précision quand même, parce que c'est vrai que c'est le principal poste. Mais enfin, il faut savoir qu'on est le seul pays au monde où on comptabilise les retraites complémentaires, l'AGIR Carco, dans la dépense publique. Parce que c'est obligatoire, et parce que c'est géré en répartition. En fait, la plupart des travailleurs au monde, ils bénéficient d'une retraite complémentaire. Mais comme c'est pas légalement obligatoire et que c'est géré en capitalisation, c'est pas comptabilisé dans la dépense publique, c'est comptabilisé dans les dépenses privées. Et donc la question qui se pose, c'est l'efficacité à chaque fois. En matière de santé, quand même, les États-Unis privés, enfin à moitié privée, il y a quand même la moitié publique, heureusement, hein, mais à moitié privée, bah, les États-Unis dépensent 18% de leur PIB pour la santé, nous on est à 12-13%, donc 50% en plus.
Espérance de vie aux États-Unis,
oui, ce que je dirais, elle est inférieure à 3 ans à celle de la France. Donc l'idée que le privé c'est toujours plus efficace que le public, un dernier point quand même, parce que là, à la fin, ça m'agace. Quand j'entends dire « Oh, la dépense publique, c'est 57%, les prélèvements obligatoires, c'est la moitié. » Non mais oh, attention, dans la dépense publique, il n'y en a qu'un quart à peine qui sert à payer des fonctionnaires, ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. C'est par là, d'accord, en pourcentage du PIB. Les trois quarts de la dépense publique, c'est des sommes qui sont effectivement prélevées, mais qui sont reversées aux ménages, aux entreprises, principalement aux ménages, les retraites, le remboursement des... Et ça alimente la dépense auprès du privé. Ça soutient l'activité du privé. La dépense publique, c'est pas un puissant fonds qui fait vivre des fonctionnaires improductifs ou je sais pas quoi. D'abord, les fonctionnaires sont productifs, ils contribuent au PIB, mais surtout, les trois quarts de la dépense publique, c'est très utile pour le privé, ça stable. Et aujourd'hui, où l'économie privée va mal, je vous assure, dans tous les pays du monde, regardez l'Allemagne, chantre de l'austérité, est en train de faire des plans de relance. On est complètement à contre-courant. Hein, ce discours-là d'anxiogène sur le thème, il faut faire de... Mais on est complètement à contre-courant, alors que la question qui se pose, c'est au contraire celle de reconstruire le pays. Il y a plein de défis, il y a plein de besoins insatisfaits, il y a plein de prestations sociales qu'il faudrait augmenter sur les familles. Hein, on a un pays où le taux de pauvreté chez les retraités est l'un des plus faibles, grâce à notre joli système de retraite. Par contre, chez les enfants, c'est pas bien. Je pense qu'il faudrait augmenter des prestations, les prestations familiales, par exemple, les données le premier enfant. Bon, voilà, il y a plein de trous un peu dans le filet de la protection. Voilà, mais et ça serait utile, y compris pour l'économie en général.
Sylvain Catherine, je trouve que cet argument-là, d'une forme d'efficacité de la dépense, y compris publique, parce qu'elle alimente, c'est ce qu'on comprend dans le circuit qui vient d'être décrit par Christophe Rameau, parce qu'elle alimente aussi en partie un pan de l'économie privée, et donc se justifierait aussi pour le PIB global, pour la croissance du pays et sa bonne santé économique. Est-ce qu'il s'entend selon vous ?
Alors, deux choses. D'abord, si le système de retraite est si favorable aux retraités, c'est pas parce qu'il est performant, c'est parce que les taux de cotisation sont très élevés et que, en plus de ça, on rajoute 50% d'impôts par rapport aux cotisations qui sont perçues. Donc, c'est juste qu'ils coûtent très cher. Donc, c'est pour ça que les retraités français sont favorisés et qu'effectivement, ils ont un taux de pauvreté très faible. Pour l'autre argument un peu plus keynésien sur les circuits de consommation, un peu l'argument d'économie hydraulique, les actifs, ils sont aussi capables de dépenser leur salaire. Il n'y a pas besoin de prendre un euro chez un actif pour le donner à un retraité pour que cet euro soit consommé. Il serait aussi bien consommé par l'actif.
Sylvain Catherine, vous avez évoqué cette idée du raisonnement hydraulique, cette idée qu'il y a une forme de ruissellement aussi, mais de façon très, très keynésienne. Alors, ce qu'on comprend, c'est si on devait résumer l'intégralité de ces débats, c'est que finalement, bon, cette TVA sociale met en lumière tout un ensemble de problématiques, qu'elles soient celles de l'inéquité de mesure. À partir du moment où on se pose la question de qui est concerné ou ne l'est pas. Sylvain Catherine, je voudrais également vous poser une autre question. C'est qu'on aurait pu envisager d'autres pistes aussi. Beaucoup de représentants syndicaux l'ont fait. Le Haut Conseil aussi l'a fait. Il a notamment proposé de taxer davantage le patrimoine parce que ça correspond aussi à une façon de trouver des recettes. Est-ce que selon vous, c'est une façon aussi de s'attaquer à ce problème-là ? Est-ce que c'est une piste qui doit être envisagée ?
Alors, oui, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique là-dessus du tout. La question, c'est quel patrimoine ? Si on parle du capital qui se mêle dans le processus de production au travail, l'incidence fiscale ne va pas être claire. Il est possible que cette taxation, au final, retombe sur les salaires. Maintenant, il y a énormément de formes de capital qui sont relativement improductives et qui, par ailleurs, ne peuvent pas partir du pays. Par exemple, le foncier nu. Donc ça, c'est une alternative à la TVA. Donc quand on parle effectivement de, en gros, changer de base fiscale, il n'y a pas que la consommation qui est une cible potentielle. Le patrimoine immobilier, plus spécifique le patrimoine en termes de terres, est très très élevé. Et un autre avantage en fait de taxer ce type de patrimoine, c'est que la taxe serait répercutée dans la valeur du capital et donc ça redistribuerait de la richesse des propriétaires actuels. Alors, il faut faire attention peut-être à ne pas trop pénaliser les gens qui viennent d'acheter leur maison, qui ont acheté leur maison peut-être dans les 10-15 dernières années, mais ça redistribuerait de la richesse par exemple, des retraités qui ont acheté il y a 30 ans et qui ont bénéficié de l'explosion des prix de l'immobilier dans les années 2000. ça ferait baisser leur prix de leur maison et ça serait favorable à ceux qui les achètent, donc qui sont plus jeunes. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est vu avec la suppression de la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la suppression de la taxe d'habitation a été répercutée dans les prix de l'immobilier en faveur des propriétaires et en défaveur des acheteurs.
Clément Carbonnier, vous souhaitiez réagir ?
Oui, sur cette question de l'imposition du patrimoine et des différents patrimoines. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que dans les évolutions récentes, le patrimoine foncier a pas été spécifiquement désavantagé, mais il a pas été avantagé, alors que le patrimoine financier, lui, a été avantagé. C'est sur le patrimoine financier qu'on a enlevé la taxation à la fois du stock et des revenus et baissé l'imposition des revenus. Donc derrière, on a déjà finalement une différence qui a été fait de ce côté-là et qui est fait un peu toujours sur cette même idée que les mécanismes de marché vont régler nos situations, notamment de productivité. C'est cette idée-là que pourquoi les entreprises vont mal, parce qu'en fait elles trouveraient pas de fonds de financement. Quand on regarde, c'est pas le problème. Le problème des entreprises françaises, de leur productivité, c'est pas le manque de financement. Le problème des entreprises françaises, c'est pas le coût du travail. Le problème, c'est aussi un cadre de productivité. C'est un état de formation et de santé de la main-d'œuvre. C'est des infrastructures. En gros, c'est quoi ? C'est de l'investissement public. Et en fait, c'est les biens publics qui permettent aux entreprises d'être plus productives qui nous manquent actuellement. Et au lieu de répondre à ces besoins-là, en termes d'infrastructure, en termes de formation, en termes de santé, ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit il faut limiter les dépenses de santé, il faut limiter les dépenses de nouvelles infrastructures, il faut limiter toutes ces dépenses-là, il faut limiter les dépenses d'innovation publique. Et on va simplement redonner de l'argent à travers des baisses d'impôts, à travers un moindre coût du travail au marché, et ils vont d'eux-mêmes bien tout gérer. Et en fait, ce que nous montre l'expérience, c'est que c'est pas le cas. Et donc, à ce moment-là, ce qui nous manque, c'est peut-être de taxer y compris le patrimoine financier, mais pour pouvoir fournir globalement à l'économie les moyens d'être plus en meilleure santé et plus productif.
Sylvain, Catherine, vous souhaitez réagir à cette question-là, et puis puisque la fin de l'émission approche, et pour terminer sur une note constructive, à partir du moment où on dit que la TVA est une taxe maudite, que chacun cherche à l'éviter, elle est aussi qualifiée de radioactive politiquement, est-ce qu'on ne va pas aussi vers une forme de point de rupture où finalement les modalités de financement du modèle social arrivent aussi à une forme de point de rupture démocratique, à un sentiment de désaccord trop fort aussi avec celles et ceux qui payent justement ce système fiscal?
Oui, alors déjà, je voulais dire que je suis en partie d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a des gros efforts à faire sur la formation. Je pense sur l'infrastructure, la France dépense pas mal et est plutôt performante. Mais quelle est la raison pour laquelle ces budgets baissent ? C'est parce qu'on ne peut pas monter les impôts et qu'en même temps, il faut payer le système de protection sociale. Et donc, c'est pour ça que les dépenses d'éducation baissent, c'est pour ça qu'une partie croissante du budget des dépenses d'éducation est en fait dépensée sur les retraites. Et donc, tous ces problèmes sont liés, entre guillemets. Et pour répondre à votre dernière question, oui, je pense que il n'y a pas de majorité actuellement, ni de consensus politique dans la population, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre d'émission, pour faire ce genre de Big Bang fiscal. Et donc, oui, je suis assez sceptique sur ce qui va se passer.
François Langeau, dans quelle mesure on se retrouve effectivement dans une forme d'impasse ? On le disait, la TVA sociale est maudite, personne n'arrive totalement à l'assumer politiquement. On a Éric Lombard qui nous dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, on veut une forme de stabilité à ce niveau-là. Alors, où est-ce qu'on peut gratter ? Qu'est-ce qu'il nous reste comme piste ?
Je pense qu'il ne faut pas exclure des pistes a priori de manière dogmatique. On évoque la TVA sociale, ça peut être une piste en partie pour régler l'immense déficit que l'on a et la suite des déficits à venir, parce qu'ils sont prévus, hélas, en étant encore existants. Donc, on a ces problèmes à régler qui sont une longue trajectoire qu'on va suivre pendant 20 ans. Donc, il faut trouver plusieurs pistes. La TVA sociale, c'en est une, donc il ne faut pas la négliger. Je pense évidemment, comme précédemment dit, qu'il faut également trouver d'autres formes d'impôts, et en particulier, évidemment, l'impôt sur le foncier est évidemment une très bonne mesure à réfléchir en lien avec, évidemment, les héritages en foncier. Donc, toutes ces choses-là qui peuvent être des impôts, qui peuvent rapporter un petit peu d'argent tout en étant redistributifs, évidemment, il faut y réfléchir. En ayant quand même en tête qu'aujourd'hui, il y a quand même 51% des revenus des Français qui vont à l'État. Donc, les recettes de l'État sont déjà quand même actuellement relativement abondantes. On a le plus gros État d'Europe et quasiment du monde. Donc, il faut quand même être conscient de ça.
François Langlois.
Le gros problème, c'est que notre dépense a énormément dérivé. Donc, il faut être un petit peu raisonnable et se dire que, au-delà de trouver des impôts, il y a aussi certainement quelques mesures pour être raisonnable de baisse des dépenses.
Merci.
De manière à ce qu'on soit en gros à 50% de dépenses, 50% de recettes dans le PIB en France.
Merci François Langlois, je suis désolée de vous interrompre, mais cette émission doit se terminer. Un immense merci à tous les quatre, Sylvain, Catherine, François Langlois, Christophe Rameau et Clément Carbonnier d'avoir participé à cette émission.